Ah, vous avez lu dans, je pense, dans le groupe de prière, peut-être, hein, en tout cas, une partie de la première épître de Jacques. Donc, je propose qu'on puisse, pendant quelques temps, regarder un peu cette épître de Jacques, qui se trouve vers la fin de la Bible. Et puis, bon, on va essayer d'avancer dans cette épître petit à petit. La première chose que nous cherchons à savoir quand nous sommes en présence d'une lettre, c'est quoi? Quelles sont les choses? Quand vous ouvrez une lettre, quelles sont peut-être les choses? Ou la première chose que vous cherchez à savoir? L'expéditeur. Qui a écrit? On fait toujours ça avec la lettre. Hein? Qui sait? Ça vient d'où cette lettre-là? Hein? Et puis si on ne sait pas, quand on ouvre la lettre dans notre pays, qu'est-ce qu'on fait? On lit d'abord le début? Non, on va lire la fin, parce que souvent c'est à la fin qu'il y a le nom de la personne. Donc l'une des premières choses que l'on cherche à savoir, c'est qui a écrit cette lettre. Eh bien, et puis la deuxième chose, peut-être, c'est aussi à qui est-ce qu'elle est adressée. On peut dire, ah, mais ça, c'est pas pour moi, ça. C'est pour Mathias, c'est pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc on cherche d'abord qui a écrit et puis à qui la lettre est adressée. Donc dans les épîtres, eh bien, nous avons les deux choses au début. Hein. Et là, dans l'épître de Jacques, on a qui a écrit cette lettre. Ça commence avec le nom de l'expéditeur, Jacques. Et puis aussi, à qui il a adressé cette lettre. Mais il arrive parfois que nous recevions des lettres d'une personne et nous connaissons plusieurs personnes qui portent ce nom-là, ou le prénom. La personne signe avec son prénom. Et c'est pas toujours évident. Donc on aime quand même faire un petit peu de recherche pour savoir, mais quel Jacques m'a écrit cette lettre? Est-ce que c'est Jacques qui habite à Paris? Est-ce que c'est celui qui est à Bordeaux? Est-ce que c'est celui qui est, etc. Donc on essaie de savoir qui a écrit. Donc quand on lui lit ici Jacques, si je vous demandais qui est Jacques, c'est pas évident tout de suite. Quand c'est écrit Paul et Timothée, tout de suite on sait de qui il s'agit. Mais lorsqu'il est écrit Jacques, on ne sait pas forcément de qui il est question. Parce que dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes qui s'appelaient Jacques et qui ont existé, qui étaient contemporains du Seigneur Jésus-Christ. On a peut-être que ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est essayer de savoir quel Jacques il s'agit. Il y avait dans la Bible, est-ce que vous vous souvenez des Jacques qu'il y avait dans la Bible? Le frère de Jésus. Oui, il y en avait un qui s'appelait Jacques, fils de Zébédée. D'accord, donc Jacques, fils de Zébédée, par exemple, était un pêcheur, hein, qui a aussi, marin pêcheur, je veux dire qu'il faisait de la pêche, hein, qui a pu pêcheur aussi à cause du péché. Que le Seigneur Jésus a appelé avec son frère qui s'appelait Jacques et Jean, hein, dont Jean avait été appelé le fils du tonnerre. Vous vous rappelez un petit peu ça. Donc on peut trouver cela dans Matthieu, on ne va pas lire ces versets, mais dans Matthieu chapitre 4, versets 17 à 22, il est question de Jacques, fils de Zébédée, et de Jean, son frère. Et nous lisons, par exemple, en Acte 12, versets 1 et 2, que ce Jacques-là, il a été décapité par Hérode. Donc, il était un disciple de Jésus. Jésus l'avait appelé avec son frère et les actes des apôtres nous disent, hein, qu'il a été décapité par Hérode et on pense que c'est aux alentours de 44 après Jésus-Christ. La Bible parle aussi d'un Jacques qui s'appelait Jacques, fils Thaddée. Ah, peut-être, j'ai pas trouvé celui-là, mais j'ai trouvé fils d'Alphée. Je dis pas que j'ai tout trouvé, mais il y avait aussi Jacques, fils d'Alphée. On sait pas beaucoup de choses de ce Jacques-là, hein. Sinon qu'il a fait partie des apôtres, hein. On retrouve, par exemple, ce Jacques nommé dans Actes chapitre 1, vous savez, quand ils sont dans la chambre haute, etc. Donc, on parle de Jacques, fils d'Alphée. Donc, si vous regardez rapidement, Acte 1, verset 13. Acte 1:13, il dit, quand ils furent arrivés dans la chambre haute, où se tenait d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, donc il y a un Jacques qui est nommé ici, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, et puis Jacques, fils d'Alphée. Hein. Donc vous voyez déjà, rien que dans ce groupement de personnes, il y avait déjà deux Jacques. Et puis il y a un Jacques qu'on nomme Jacques père de Jude, hein, quelque part on trouve ça en Luc chapitre 6 verset 16, c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Et puis aussi, comme disait Marcel, Jacques le frère de Jésus. Hein, Jésus avait des frères et des sœurs. Hein. C'est que si vous avez grandi dans le milieu catholique, on parle de la Sainte Vierge Marie, qui est restée vierge tout le temps. Hein. Et donc, quand la Bible dit que Jésus avait des frères et des sœurs, eh bien, parfois dans la doctrine catholique, on dit que c'était des cousins. Hein. Mais la Bible affirme que Jésus avait des frères. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 55-56, par exemple, Matthieu 13, 55-56, je vais lire, hein, il dit... n'est-ce pas, en parlant de Jésus, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Donc on voit, Jésus avait des frères et des sœurs, et particulièrement, il avait un qui s'appelait aussi Jacques. Et donc, dans un premier temps, la Bible nous dit que les frères de Jésus n'ont pas cru en lui. Jean 7, par exemple, je veux vous lire ça, Jean 7, verset 5. Donc, on essaie de... Voilà, Jean 7, verset 5, ici, dit... j'ai pas la bonne page. Car ses frères... Non plus, les frères de Jésus, non plus, ne croyaient pas en lui. Hein, c'est pas. Alors peut-être on disait, tiens, si j'avais été à l'époque de Jésus, je croirais en Jésus parce que le fait d'être là, de le voir, c'est que ça devait être quelque chose. Hein. Comment ne pas croire en lui quand on avait la possibilité de le voir. Hein. Mais Jésus avait des frères qui ont grandi avec lui. La Bible dit qu'ils ne croyaient pas en lui. Hein, ils ne croyaient pas en lui. Mais par la suite, ce Jacques. Frère de Jésus est devenu un disciple, et on a lu son nom dans Jacques chapitre 1 verset 13 et 14. Et puis beaucoup de spécialistes sont d'accord pour dire qu'il c'est lui qui est devenu le chef de l'église de Jérusalem. Donc si vous lisez Acte 12 verset 17 par exemple, Acte 12 17. Là, on fait un petit peu de safari là, hein. Acte 12 verset 17. Il dit, Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, c'est lorsque Pierre a été délivré de la prison, il retrouve les siens. Et puis, il leur dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Hein? Donc, il s'adresse aux responsables de l'église. Ici, il dit, annoncez. On pense que c'est Jacques, le frère de Jésus, et responsable de l'église de Jérusalem. En Galates chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul en parle aussi quand il dit qu'il est allé à Jérusalem. Hein? Donc, Galates 2, verset 9, par exemple. Galates 2, verset 9, l'apôtre Paul dit, verset 7 déjà dit, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis comme à Pierre pour les circoncis, il dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes, donc c'était vraiment des responsables, hein, comme des colonnes, eh bien, où est-ce que j'ai perdu, voilà, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Voilà donc ce que l'on trouve ici. Et puis, plus tard au verset 12, il dit « En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il parlait de Pierre qui avait une attitude pas correcte, il dit donc il y avait des gens qui sont venus de Jérusalem et qui étaient dans l'entourage de Jacques, de ce responsable de l'église de Jérusalem. Donc le Jacques dont il est question ici, hein, tout porte à, enfin tous les spécialistes accordent pour dire que c'était vraiment Jacques, fils, le frère pardon du Seigneur Jésus-Christ. Alors ça donne peut-être à l'épître une importance particulière, d'autant plus que ce Jacques avait eu une très bonne influence dans ce qu'on appelait le concile de Jérusalem. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul dans Galates, il dit à un moment donné qu'il est allé à Jérusalem pour régler la question du salut par la foi et ou par les œuvres. C'est-à-dire, à un moment donné, les Juifs voulaient bien que des païens deviennent chrétiens, mais il fallait qu'ils passe par les lois de Moïse. Hein. Il disait, acte 15, quoi ? Oui, on peut être sauvé, mais aussi il faut la circoncision. Hein. Et l'apôtre Paul disait absolument pas. Donc ils ont dû aller envoyer une délégation à Jérusalem pour régler cette affaire. Et ils ont discuté pas mal. Et puis, lorsque vous arrivez à acte chapitre 15, j'aime bien lire ce passage, parce que acte chapitre 15, et à partir du verset 13, le texte nous dit « Lorsqu'ils eurent cessé de parler », c'est-à-dire tout le monde a parlé, Pierre a pris la parole, Paul a pris en doute, et puis il dit « Lorsqu'ils eurent cessé de parler », qui c'est qui parle ? Jacques, le responsable de l'église, prend la parole et il dit « Homme frère, écoutez-moi ». Et puis il raconte tout ce qui se passe, il donne son sentiment, il dit « Simon, à raconter comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom, et avec cela s'accordent les paroles du prophète », et puis il explique pas mal de choses. Et au verset 19, il dit « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, et qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on lit tous les jours le sabbat dans les synagogues. » Et puis verset 22, « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. » Donc, Jacques dit, verset 19, « Je suis d'avis qu'on leur écrive, verset 20, quelque chose. » Et les frères disent, « C'est une bonne idée. » Ils envoient du monde, et il dit qu'ils l'envoient avec une lettre hein, qu'ils ont fait. Donc, c'est un homme qui a eu une influence considérable lorsqu'il y avait eu un peu de conflit, on pourrait dire, un peu de dissension au sujet de la pureté de l'évangile, du salut par les œuvres. Et donc, c'est ce Jacques qui écrit donc dans cette lettre. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de personnage pour qu'on puisse avoir une idée. Maintenant, à qui est-ce qu'il écrit ? Deuxième question. On avait dit qui écrit et à qui est-ce qu'il écrit ? Et bien, regardons notre texte. Dans Jacques, il dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc on pense qu'il écrit essentiellement à des juifs chrétiens, des juifs devenus chrétiens, mais qui sont dispersés, hein, un peu pas simplement dans la Palestine, mais qui sont dispersés un peu partout. Hein, comme quand vous lisez Actes chapitre 2 à la Pentecôte, il y avait des juifs qui venaient de toutes les nations qu'il y avait sous le ciel. Donc il y avait un éparpillement. Et il écrit donc à toutes ces personnes partout, enfin ces juifs en tout cas partout dans le monde. On ne peut pas dire plus de choses là-dessus. Mais quelle est la situation de ces juifs ? On pourrait dire pourquoi est-ce qu'il leur écrit ? Dans quelle situation ils se trouvaient ? Quand on lit l'épître, on arrive à voir un petit peu ces informations. Verset 2, si vous regardez le verset 2 par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire de la situation de ces juifs ? Ils souffrent, hein. Ouais, on a l'impression qu'ils sont dans des épreuves, parce que Jacques en parle ici, hein. Et puis, versets 5 à 7, par exemple. D'ici quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Peut-être qu'ils ont besoin de discernement dans beaucoup de situations. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Je regarde mes notes un peu. Chapitre 2 maintenant, verset 5. Qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple? On va pas tout voir, mais qu'est-ce qu'on peut trouver? Chapitre 2, verset 5. 5 à 7. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? On peut supposer qu'ils avaient un petit peu de soucis avec la pauvreté. Peut-être les moyens financiers n'étaient pas très importants. Et Jacques les encourage à dire, mais Dieu a choisi les choses si pauvres du monde, hein, et que ça n'est pas un problème. Et il dit verset 6, et vous avilissez le pauvre, hein. Il y avait probablement aussi, on pensait qu'il y avait probablement aussi, ils avaient une attirance pour ceux qui étaient riches, faisaient du favoritisme un peu, hein, des flatteurs à l'égard de ceux qui étaient riches, et puis peut-être que les pauvres étaient rejetés. Chapitre 2, par exemple, chapitre 1, verset 27, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire cela quand on lit cela, chapitre 1, verset 27. Chapitre 1, verset 27. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut supposer qu'il ne faisait pas suffisamment? Voilà, ils ne visitaient pas. Donc, ils avaient peut-être on pourrait dire ici, hein, oublié leurs devoirs les uns envers les autres aussi. Chapitre 2, verset 14, par exemple. Chapitre 2, verset 14. C'est un peu la même chose. Jacques dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Alors, c'est pas l'apôtre Jacques, hein, quand il n'était pas apôtre, hein. Mais ici il dit, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Et donc, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, etc. Donc, et après il parle de chauffer, de donner des vêtements, etc. Donc il parle de relations d'entraide qu'il y avait entre les uns et les autres et qui ne devaient pas fonctionner, certainement pas comme ça aurait dû. Il y avait un problème dans Jacques 1, 26, par exemple, si on revient à Jacques 1, 26, qu'est-ce qu'on peut voir? Si quelqu'un croit être religieux, sans faire quoi? Voilà, sans tenir sa langue en bride. Il y avait peut-être un problème de blablabla, de parole, hein. Peut-être ça partait dans tous les sens, hein. On peut connaître ça aussi, hein. Je pense que c'est des choses que nous pouvons connaître. Donc peut-être qu'ils avaient un problème de maîtrise aussi de la langue. Tout le chapitre 3, d'ailleurs, et sur la langue, hein. Si vous lisez le chapitre 3, ça traite de la langue, qui est un petit membre qui peut faire beaucoup de dégâts. Donc on voit qu'ils avaient, il y avait pas mal de situations. On pourrait encore trouver d'autres choses, mais il y avait pas mal de situations. Ils étaient attirés par le monde. Chapitre 4, verset 1, il dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et puis un peu plus loin, je crois qu'il parle de l'amour du verset, j'ai pas noté cette fois-ci, mais oui, au verset 4, voilà. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il les appelle adultères parce que ils étaient portés vers l'amour du monde. Donc voilà un peu quelle est la situation de ces personnes. Donc quel est le but, si on peut regarder maintenant? On a vu qui est l'auteur, à qui il écrit, dans quelle situation il se trouve. Donc quel peut être le but d'une telle lettre, hein, selon vous? Quel peut être le but d'une telle lettre? Si vous avez ces éléments-là, est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que Jacques est en train de faire? Oui. Ouais, moi je pense aussi, hein, ils essaient de les, en tout cas, il écrit la lettre pour les encourager, pour encourager les chrétiens face à quoi? Aux épreuves qu'ils peuvent connaître, aux souffrances, aux tentations, et puis, on pourrait dire, à l'attrait du monde, aux difficultés relationnelles qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres. Et donc, l'épître, semble indiquer aux chrétiens comment mûrir spirituellement, hein, comment mûrir spirituellement au travers des difficultés. Et la lettre ne présente pas de structure particulière. C'est pas une lettre qui a la même structure que qu'une épître de Paul, par exemple, hein, avec un ensemble de doctrines, une partie doctrinale et une partie pratique. C'est une lettre qui est totalement pratique. Donc, et Jacques prend des choses. Il parle des choses différentes sans qu'elles aient forcément un lien entre elles. Mais ce qu'il vit, c'est vraiment extrêmement, extrêmement pratique. Donc, on ne va pas chercher une structure particulière dans la lettre, mais lire les choses comme elles viennent et puis les prendre ici telles qu'elles sont. Donc, c'est une lettre qui est essentiellement pratique, qui vise vraiment, je crois, le comportement des chrétiens face au monde et dans leurs relations avec les autres. Et donc, en quelque sorte, Jacques enseigne que la foi véritable se traduit par une vie pratique spécifique. C'est ce qu'il dit un petit peu. Si vous regardez au chapitre 1 et au verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Donc, c'est pas simplement qu'on va écouter des textes, mais il veut pousser les chrétiens à une vie pratique. Alors j'ai intitulé cette première petite étude, je ne vais pas vous dire comment, je vais vous laisser trouver peut-être. Alors on va regarder les quelques versets, juste pas beaucoup de versets cette fois-ci, mais quelques versets, verset 2 et le verset 3, verset 2, 3 et 4, si on a le temps. Je vais lire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà, juste ces versets-là. Imaginez que vous avez lu ça. Vous dites, bon, il faut que je résume en une phrase ou une pensée ces quelques versets. Essayez juste de réfléchir un tout petit peu. Qu'est-ce que vous auriez mis comme résumé? Qu'est-ce que Jacques dit ici en résumé? Prenez quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il dit en résumé? Je relis, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Est-ce que vous avez une idée? Voilà, se réjouir dans l'épreuve, très bien, se réjouir dans l'épreuve concernant le résultat de connaissant le résultat de l'épreuve. Est-ce que quelqu'un a une autre idée.
Persévérer dans la patience.
Persévérer dans la patience, oui. D'autres encore? Merci.
Vers la perfection.
Vers la
Perfection.
perfection, oui, tout ça, c'est bien, très bien. D'autres? C'est bien d'essayer de, je fais ça parce que quand on lit, c'est bien d'essayer de saisir qu'est-ce qu'elle est en train de dire, parce que c'est ça qui va constituer le point d'application après pour nous. Moi, j'ai dit, mais tout ce que vous avez dit, c'est très bien. J'ai dit, changer de regard sur les épreuves. Pourquoi? Parce que souvent, comment est-ce qu'on considère les épreuves? Une épreuve, c'est quelque chose qui, naturellement, engendre quoi? La souffrance, la tristesse, et quelle réaction de notre part, en général? La fuite, ou, si, oui, la fuite, on peut, parfois, on peut être mécontent, hein? L'impatience, le découragement, l'envie de laisser tomber. Hein? On fait tout pour que cette souffrance puisse quoi? Disparaître. disparaître, hein, surtout si on est malade. Alors là, on va voir tous les trucs possibles, hein, parce que, voilà. Et ce que Jacques dit ici, c'est quoi? Il dit, mes frères, donc regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas naturel ici. Hein. Il prend le contre-pied d'un sentiment naturel que l'on a face aux épreuves. Hein. Et donc, il demande de, c'est pour ça que j'ai noté, changer de regard, parce que le regard naturel, c'est un regard de fuite, ou de mécontentement, ou de découragement, ou de désespoir que l'on a quand on voit les épreuves. Hein, mais ici, l'apôtre dit, il faut apprendre à changer ce regard et regarder les épreuves autrement. Autrement. Et il dit, regardez comme un sujet de joie. Les épreuves comme un sujet de joie complète, c'est-à-dire de joie sans mélange, de joie pure. Hein. Qui, ici, a l'habitude de regarder les épreuves comme un sujet de joie? Hein. Il ne dit pas que les épreuves sont une source en elles-mêmes de joie. Hein. C'est pas joyeux quand on se casse une jambe, par exemple, on peut pas dire ça, c'est pas ce qu'il dit. Mais il dit que il faut regarder les épreuves comme étant des occasions, d'accord, donc comme étant des occasions, d'accord, qui peuvent procurer une joie, sachant, comme Jérémie a dit, un certain nombre de choses. Donc, la première chose que on pourrait noter, c'est que les épreuves atteignent aussi les chrétiens. Je dis frères, hein, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et les épreuves atteignent aussi les chrétiens. Le mot traduit ici par les épreuves, hein, ici, c'est un mot qui peut être utilisé dans plusieurs sens. Il peut vouloir parler de tentation interne au péché, comme par exemple dans Matthieu 26 où Jésus dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, dans la tentation ». C'est le même mot qu'ici pour les épreuves qui sont données là. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc on voit que c'est quelque chose dans lequel on peut tomber, qui peut venir du péché. Il peut être aussi utilisé pour décrire toutes sortes d'afflictions. Et le mot est utilisé, je crois, ici, dans ce sens, quand il dit les diverses épreuves, c'est toutes sortes d'afflictions. C'est ce que Jésus dit, par exemple, quand il parle, il dit, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » D'accord. C'est le même mot. Et Jésus parle de toutes ces épreuves. Tout ce que la Bible dit qu'il a subi contre de la part des pécheurs, une grande opposition. Donc, et le mot, donc ici, c'est toutes sortes d'épreuves que je peux rencontrer. Toutes sortes d'affliction, et vous pouvez penser à tout ce qui peut constituer une affliction pour le chrétien. Et c'est ce sens, je pense, qu'il faut lui donner ici. Les épreuves de toutes sortes, donc, n'épargnent pas le chrétien. Et le Seigneur Jésus lui-même a eu, on l'a vu dans ce verset tout à l'heure, toutes sortes d'épreuves. C'est vrai que dans certains milieux, parfois, on nous prêche que le chrétien ne devrait pas être malade, par exemple. Et si le chrétien est malade, c'est qu'il n'a pas la foi. Hein, j'ai entendu ça. Parfois, les millions ont dit, voilà, et c'est pour ça qu'on va tout faire pour guérir. Parce qu'un chrétien ne doit pas être malade. Mais quand on lit la Bible, il suffit de lire la Bible pour savoir que c'est faux. Parce que la Bible parle beaucoup de chrétiens malades. Et même de grands hommes de Dieu qui sont passés par la maladie. Par exemple, Élisée qui a guéri des gens et ressuscité des morts. La Bible dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. C'est extraordinaire. Voilà. Il est mort d'une maladie, Élisée. Lui qui avait pourtant opéré des miracles, hein, et que Dieu a utilisé puissamment. Oui. Donc bon, on pourrait citer encore beaucoup d'autres exemples, mais le chrétien n'est pas épargné par les souffrances que les autres personnes du monde connaît. C'est ce que il est important de retenir. Il n'est pas dit que le chrétien ne connaîtra jamais de difficultés financières. Il n'est pas dit qu'il ne connaîtra jamais de maladies, qu'il n'aura pas, je sais pas moi, de problèmes familiaux dans son couple, qu'il n'aura pas des problèmes avec les enfants ou au travail, des problèmes relationnels. La Bible ne dit absolument pas cela. Les épreuves, toutes ces choses peuvent constituer des épreuves pour le chrétien. Mais il n'est pas épargné par ces choses. L'apôtre Pierre dit même que le chrétien ne devrait pas même trouver étrange d'être éprouvé. Il dit en 1 Pierre 4, verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Donc c'est pas une chose étrange. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, on va lire 23 à 27, parle de diverses épreuves, ici, qu'il a connues. Et c'est, je vais quand même lire parce que c'est assez fort pour, parce que lui qui était l'apôtre, choisi par Dieu, d'accord, qui a écrit beaucoup de textes de la part de Dieu, qui a vu le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, qui dit qu'il a été élevé jusque dans le ciel et qui a vu des choses qu'il n'est même pas donné aux hommes ni de voir ni de raconter. Il dit ceci en 2 Corinthiens chapitre 11 et au verset 23, il dit « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en termes extravagants. Je le suis encore. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. » Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges et 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Qui d'entre nous a déjà connu toutes ces choses-là? Hein? On peut souffrir beaucoup, mais ce que je veux dire ici, c'est que voilà un homme qui a consacré toute sa vie à Dieu et qui a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'afflictions dans sa vie. Donc les épreuves peuvent atteindre de manière très, très, très difficile le chrétien. Il ne faut pas croire que parce que l'on est un enfant de Dieu, on sera épargné. Et il ne faut pas trouver étrange, lorsque l'on est éprouvé, faut pas trouver cela étrange parce qu'on est un enfant de Dieu. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que je voudrais faire remarquer ici, c'est que, regardez ce que l'apôtre Jacques dit ici, au chapitre, au verset 2, il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, dit-il, que les preuve de votre foi produit la patience. » Presque qu'il faut pour avoir un regard qui change au niveau des épreuves, il faut une connaissance. Sachant que. D'accord? On peut pas dire, oui, les épreuves sont des sujets de joie. Non, c'est pas vrai. Il y a une vérité à connaître, et c'est cette vérité, d'accord, qui permet de voir après les épreuves, de les considérer en tout cas comme des sujets de joie. Et quelle est cette vérité que que Jacques énonce ici? Il dit que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors cette fois-ci, le mot qu'il utilise ici comme épreuve n'est pas le même que celui qui est utilisé dans les épreuves. On a dit tout à l'heure, ça pouvait exprimer l'ensemble de toutes les épreuves, des afflictions que l'on peut connaître. Ici, il utilise un mot dont le sens est ce par quoi quelque chose est éprouvé, ce qui va permettre de fournir une preuve. Hein, c'est comme s'il disait, il disait ici que les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, d'accord, sont là pour éprouver votre foi, pour la tester, pour mesurer sa validité, pour l'affermir, hein. Faire une épreuve. C'est comme si, par exemple, vous dites, voilà, on va faire subir une épreuve à un objet, hein, un objet, pouvoir tester sa solidité. Ça, c'est l'épreuve, le deuxième mot ici, l'épreuve de la foi. L'épreuve de, et on va faire quoi avec cet objet? On va le plier, pour voir jusqu'où il peut tenir quand on le plie. Et puis après, on va le tirer, pour voir son élasticité. Après, on va le comprimer, pour voir jusqu'à combien, on va le mettre dans l'eau, hein. On va le mettre au feu, pour voir combien de temps il résiste. Tout ça sont des épreuves, les diverses épreuves. Mais toutes ces diverses épreuves ont comme but de faire quoi? D'éprouver la solidité, la tenue au feu, du matériau. Donc c'est comme si Paul dit, Jacques dit ici, voilà, les épreuves que vous avez, que vous connaissez, les différentes choses qu'on a lues tout à l'heure, la faim, le froid, la nudité, etc., les difficultés financières, la pauvreté, etc., eh bien il dit, toutes ces choses sont des petits tests qui ont pour but d'éprouver votre foi. Toutes les épreuves sont une épreuve, vous voulez, quelque part. Et les épreuves sont une épreuve qui permet de donner la preuve, on pourrait dire un petit peu, de votre foi. Le mot est parfois utilisé comme la preuve, hein, le mot qui est utilisé comme épreuve ici est utilisé comme la preuve. L'apôtre Paul, par exemple, l'utilise dans ce sens, dans 2 Corinthiens 5, il dit, « Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui je suis encore absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. Vous cherchez une preuve que je suis vraiment apôtre et que Christ parle en moi. » C'est le même mot qu'il dit ici quand il dit l'épreuve de la foi. Vous cherchez à avoir l'authenticité de ma foi. Et donc, Jacques dit ici, les épreuves doivent être regardées comme un sujet de joie parce qu'elles permettent d'éprouver l'authenticité de la foi, de la fermir même, cette foi. Et donc, c'est ce qu'il veut pour enseigner, et c'est pour cela que cela peut être un sujet de joie. Il faut donner la preuve, je vais dire, de la foi par l'épreuve de la foi. La preuve de la foi par l'épreuve de la foi. Et puis, je termine avec cela, il dit au verset 4, verset 3 déjà, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi ? La patience. » La patience, on en a besoin lorsqu'on est dans l'adversité. Quand il n'y a pas d'adversité, on n'a pas besoin de patience, hein, en général. On ne prie pas pour la patience quand tout va bien. « Oh, Seigneur, vraiment patient parce que le patron est en train de m'augmenter. » Ça n'existe pas. Hein? Mais on peut dire, « Seigneur, vraiment patient parce que ça fait déjà une année que je demande et il ne fait toujours rien. » Hein? Donc, la patience est plutôt requise pour des situations où on connaît de l'adversité, où on est un petit peu contrarié. Et Jacques dit que l'épreuve de la foi a pour fruit de la patience, que cela produit la patience au sein de l'épreuve, et ça permet, d'autres textes parlent d'endurance, cela permet de développer l'endurance. On aimerait avoir la patience souvent tout de suite, mais ça marche pas, la patience et tout de suite ça marche pas. Quelqu'un disait, il avait entendu quelqu'un prier une fois, il disait, Seigneur, donne-moi la patience tout de suite. Hein? C'est une marque d'impatience que de dire ça. Hein? La patience, dit Jacques ici, exige que la foi soit éprouvée. Et pour que la foi soit éprouvée, il faut des épreuves. Et donc il dit, c'est pour cela qu'il faut regarder cela comme un sujet de joie. Et il ajoute au verset 4, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc c'est une nécessité que la patience se développe et accomplisse une œuvre dans la vie du chrétien. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Donc, il ne peut y avoir de progrès, de croissance spirituelle, d'endurance spirituelle, sans épreuve de la foi qui produit la patience, et il n'y a pas d'épreuve de la foi sans les diverses épreuves. Et c'est pour cela que Paul dit que les chrétiens doivent regarder les diverses épreuves comme un sujet de joie. Juste une citation pour terminer. J'ai lu cette citation dans un commentaire de qui s'appelle Matthew Henry, et il écrit ceci. Il dit: prenons soin dans le temps d'épreuve que ce soit la patience et non pas la passion qui œuvre en nous. Quand on est dans l'épreuve, on peut être emporté par la passion de sortir à tout prix de ce. Il dit: prenons soin que ce soit la patience et non pas la passion qui œuvre en nous. Quoi qu'il soit dit ou fait, que ce soit la patience qui le dise ou le fasse. Quand l'œuvre de la patience sera complète, elle fournira tout ce qui est nécessaire pour notre course chrétienne et notre combat. Nous ne devons pas tant prier pour que disparaisse la détresse que pour avoir la sagesse d'en faire un bon usage. J'aime bien cela. Il dit, souvent, notre tendance est peut-être de prier Dieu, enlève cette difficulté. Il dit, c'est pas tant là que doit se situer notre prière. Notre prière doit plutôt se situer pour demander à Dieu la sagesse d'utiliser cette situation à bon escient. Comment est-ce que cette situation difficile dans laquelle je vis peut être utilisée pour la gloire de Dieu? C'est ça. Et ainsi, quand on cherche à vivre de cette manière-là, bien, la patience produit son œuvre en nous. C'est pas la passion qui nous motive, mais c'est la patience. Et c'est pour cela que l'épreuve peut être regardée comme un sujet de joie. Quand on regarde le fruit que cela va produire en nous, si on passe à travers l'épreuve telle que le Seigneur nous le veut pour nous. C'est Dieu qui prévoit des choses, des situations, il est en contrôle sur toutes choses, et nous avons besoin d'apprendre à lui faire confiance dans ces domaines. On va s'arrêter là. Et on va prier que Dieu nous conduise dans sa parole et nous fasse et nous apprenne à regarder nos diverses épreuves comme un sujet de joie.